Europe 1, le 22-22-30.
Sophie Tussaud.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Et il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La colère, moi je l'entends. La colère, démocratiquement, elle s'exprime. La bêtise et la violence, non. Pas en démocratie.
Emmanuel Macron giflé aujourd'hui lors de son déplacement dans la Drôme. Une agression commise par un homme de 28 ans inconnu des services de police. L'individu ainsi que l'homme qui a filmé toute la scène ont été interpellés et placés en garde à vue. Avec cette agression, c'est la démocratie qui est visée. Toute la classe politique s'est indignée. Tous les politiques, quel que soit leur parti et leur divergence avec la majorité, ont apporté leur soutien au président. Les Français l'attendent avec impatience. La nouvelle étape du déconfinement demain qui va permettre de pouvoir profiter de 2 heures de liberté supplémentaire. Le couvre-feu est repoussé à 23h. La journée marquera également la réouverture des salles de sport avec un protocole sanitaire bien défini. Reportage à Toulouse dans ce journal. L'actualité ce soir est également très sportive. Nous irons à Roland-Garros où se joue en ce moment le quart de finale entre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et le numéro 5, le grec Stefanos Tsitsipas. Et puis il y a du football avec le dernier match des Bleus avant le début de l'Euro de football dans 3 jours. Et la France affronte la Bulgarie, Cyril de la Morinerie.
C'est la mi-temps, les Bleus mènent 1-0, but de Griezmann. Inquiétude autour de Karim Benzema, sorti sur blessure.
Merci Cyril, on vous retrouve à la fin du journal. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. L'invité éco d'Emmanuel Dutel qui reçoit ce soir Alexis Gardy, le président de Bellambra. Sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'image choque, l'acte est grave et le geste de violence inédit. Emmanuel Macron a été giflé aujourd'hui par un homme lors de sa visite dans la Drôme. Le président a estimé qu'il ne fallait pas laisser des individus ultra-violents prendre possession du débat public.
Quand la bêtise s'allie à la violence, elle est inacceptable. La colère, moi je l'entends. La colère, démocratiquement, elle s'exprime. Vous savez, je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, je le dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi. Je suis toujours là. Ça, c'est la colère légitime. Et on sera toujours là pour y répondre. La bêtise et la violence, non. Pas en démocratie. Il ne faut rien céder à la violence. Il faut être intraitable sur les valeurs. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence.
Emmanuel Macron qui assure qu'il continuera à aller à la rencontre des Français malgré cet incident. Jean-Rémy Baudot, vous avez suivi ce déplacement dans la Drôme pour Europe 1. Emmanuel Macron a été agressé alors qu'il s'approchait des personnes présentes à la sortie du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage dans lequel il venait de se rendre.
Oui, la scène s'est déroulée juste après 13h30. Juste avant de monter dans son véhicule, Emmanuel Macron s'est approché de Badaud, parfois présent depuis le matin même derrière des barrières. Un homme lui a serré la main et, lui tenant le bras, il lui a asséné une gifle.
Montjoie Saint-Denis abat la Macronie.
Voilà, on entend sur cette vidéo « Montjoie Saint-Denis abat la Macronie ». La première partie de cette phrase fait référence à un slogan royaliste, souvent qualifié de cri de ralliement de l'extrême droite. Juste après cette gifle, le GSPR, le service de sécurité du président, est immédiatement intervenu, mais évidemment trop tard. En tout, 2 personnes ont été interpellées, des habitants de la Drôme. Il faut savoir que quelques minutes avant cet incident, Emmanuel Macron, interrogé par la presse sur la tension politique du moment, Emmanuel Macron avait alors prévenu « Si la haine et la violence reviennent, elle fragilise la démocratie ». Fin de citation. Cette violence, elle s'est exprimée aujourd'hui ici dans la Drôme. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron est atteint physiquement depuis qu'il est président.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et cette agression a ému toute la classe politique, à commencer par le Premier ministre, qui estime que c'est la démocratie même qui a été visée. Jean Castex, cet après-midi, devant les députés à l'Assemblée nationale, en a appelé au sursaut républicain. Écoutez.
À travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. C'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes, bien entendu. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie.
Jean Castex à l'Assemblée nationale. Autre réaction, celle de l'ancien président François Hollande, qui a estimé qu'agresser le président de la République, c'était porter un coup insupportable et intolérable à nos institutions. Soutien également du côté du Rassemblement national. Marine Le Pen juge inacceptable de s'en prendre à la fonction présidentielle.
Je considère ce genre de comportement inadmissible et je vous le dis avec une fermeté totale. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard la moindre violence. Bien sûr, je vais adresser au président de la République un message de soutien face à la situation qu'il a pu vivre.
Marine Le Pen au micro de Mélina Fachin. À gauche, Olivier Faure, le secrétaire national du PS, appelle à la solidarité et à la responsabilité collective. Indignation également du côté de la France insoumise et notamment d'Alexis Corbière.
Déjà, un message de solidarité en direction du président de la République. Tout le monde connaît nos désaccords avec Emmanuel Macron, avec sa politique, mais il est hors de question, que ce soit par la violence, que ce soit par les menaces, que le débat démocratique se tranche. Ne banalisons pas ce geste. Il est dans un climat où, on le sait, il y a des menaces de plus en plus fortes. Si on veut que le climat refroidisse, c'est par le débat et certainement pas par la menace et les coups qu'on peut trancher ça. Et puis, il faut des institutions qui permettent à ce que le peuple reste un acteur à tout moment, sans quoi un sentiment général que les élus ne servent plus à rien et que même quand le président de la République est devant vous, on le frappe, peut se répandre un peu plus que ce que c'est le cas aujourd'hui.
Alexis Corbière au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Alors on l'entendait en début de journal, deux personnes ont été interpellées après l'agression dont a été victime Emmanuel Macron. Marion Dubreuil, que sait-on de ces deux hommes ?
Eh bien, ce sont deux jeunes hommes de 28 ans, originaires de la même commune, Saint-Vallier dans la Drôme, à une trentaine de kilomètres. Ils sont tous les deux inconnus des services de police. Le premier est soupçonné d'avoir giflé le président, le deuxième d'avoir filmé la scène, mais son rôle précis reste à déterminer. Ils sont en garde à vue depuis 8 heures pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ce matin, ils attendaient avec une vingtaine de personnes la sortie d'Emmanuel Macron, en visite dans un lycée hôtelier. Certains scandaient des slogans de gilets jaunes, d'autres se revendiquaient anarchistes. La préfecture de la Drôme en avait dispersé certains, mais pas eux. Après 8 heures d'interrogatoire, leur motivation reste inconnue, si ce n'est qu'au moment de frapper le président, le suspect a crié « Montjoie Saint-Denis ». C'est un cri de guerre royaliste qui remonte au XIIe siècle et c'est devenu un signe de ralliement à l'extrême droite. Cet homme qui se présente comme un instructeur en arts martiaux historiques et qui apparaît en tenue médiévale sur les réseaux sociaux, n'est pas particulièrement politisé d'après les premiers éléments de l'enquête. Il a bien participé à des mobilisations gilets jaunes sur sa commune, sans être pour autant un élément moteur.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Cette visite du président dans la Drôme aujourd'hui s'inscrivait dans le cadre de son tour de France entamé la semaine dernière. Le président devait s'entretenir avec des restaurateurs. Un déplacement à la veille de la troisième et avant-dernière étape du déconfinement. Demain, le couvre-feu sera repoussé de 21h à 23h. Les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en salle. Les piscines couvertes ainsi que les salles de sport rouvriront avec un protocole sanitaire bien défini, comme vous l'avez constaté à Toulouse, Benjamin Peter.
Oui, cette salle, par exemple, ne pourra accueillir que 25 personnes à la fois, contre le double habituellement, sur rendez-vous uniquement. Le masque est obligatoire ici entre chaque machine, la visière même pour les activités de cardio. Quant au vestiaire ou aux douches, ce sera une seule personne à la fois. Un protocole lourd, mais nécessaire pour Stéphane Le Floch, le gérant. Il a hâte de retrouver ses adhérents, mais sent bien qu'ils ne reviendront pas tous du jour au lendemain.
On n'est ni un restaurant ni un bar, quoi. Voilà, on va réouvrir les portes. Le retour va se faire très progressivement. Peut-être que nos adhérents auront aussi d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités. Donc ça, on va le découvrir. Hein. Les aides d'État nous ont permis, certes sous perfusion, mais de tenir. Je pense que la véritable échéance est maintenant. Je table sur un an et demi pour avoir retrouvé une fréquentation situation, on va dire, normale.
Pour Vincent Olivier, le directeur de développement du réseau L'Orange Bleu, qui compte 400 salles dans toute la France, et donc dans les prochains mois que tout va se jouer, notamment à la rentrée de septembre, au moment des inscriptions à l'année.
Certains ont stoppé leur abonnement et maintenant, le but c'est qu'ils le reprennent, soient en confiance avec tous nos protocoles de sécurité. Aujourd'hui, 92% de notre réseau a une trésorerie armée pour tenir justement le temps de retrouver le chiffre d'affaires antérieur. Et on a 8% sous surveillance.
Et c'est la raison pour laquelle ils espèrent bénéficier d'une certaine dégressivité des aides de l'État afin d'assurer la survie de ces salles de sport.
Benjamin Peter à Toulouse pour Europe 1. Cette nouvelle étape du déconfinement qui s'ouvre demain marquera également la fin du télétravail, ainsi que le lancement du pass sanitaire qui permettra de participer à des événements de plus de 1000 personnes. Également dans l'actualité, cette panne informatique géante qui a touché des sites web du monde entier. Partout, le même message d'erreur s'affichait. La situation est depuis revenue à la normale. La piste d'une attaque pirate a été écartée. Il semble que le problème était lié à des problèmes de connexion chez le fournisseur américain Fastly. À l'étranger, la justice internationale confirme en appel le verdict pour Ratko Mladic. Le boucher des Balkans reste condamné à la prison à perpétuité. Il a été à nouveau reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis pendant la guerre en Bosnie de 1992 à 95. Paris dénonce une attaque d'une sauvagerie inouïe au Burkina Faso ce week-end. Au moins 130 personnes ont été massacrés dans le nord-est du pays, dans la zone dite des trois frontières. Jean-Yves Le Drian, qui se rendra sur place dans la semaine, assurait devant les députés que les opérations anti-djihadistes se poursuivaient dans la région. Cette attaque, la plus meurtrière qu'ait connue le pays depuis le début des violences djihadistes, n'a toujours pas été revendiquée. Un groupe lié à Al-Qaïda a nié aujourd'hui son implication. Le gouvernement burkinabé, de son côté, promet une riposte. On passe au sport à présent et on prend la direction de la Porte d'Auteuil à Paris.
Europe 1,
radio officielle de Roland Garros.
Et on vous retrouve Axel May, on fait un petit point sur le match en cours.
Oui, le deuxième quart de finale masculin entre Stefanos Tsitsipas, le grec vainqueur du tournoi de Monte Carlo, et Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial. Tsitsipas a remporté la première manche 6-3 en un peu plus d'une demi-heure. Et là, le deuxième set est plus accroché, ça cogne dur entre ces deux hommes. Quatre jeux partout, ils se rendent coup pour coup et Medvedev notamment monte davantage au filet que ce qu'il ne faisait lors du premier set. Donc 4 partout dans la deuxième manche entre Tsitsipas et Medvedev.
Et avec le vainqueur de ce match, Axel, on connaîtra la première demi-finale masculine.
Bien oui, puisque le vainqueur de ce match rencontrera Alexander Sacha Zverev, le sixième mondial, qui a réussi à se défaire sans trop de difficultés de Alejandro Davidovich Fokina, un Espagnol, en 3-7 et 1h30 de jeu. On connaît aussi d'ores et déjà la première demi-finale féminine, puisque elle va opposer cette demi-finale féminine une Russe, dont Pavlyuchkova, 30 ans, à une autre joueuse. Et cette, si je vous en parle, c'est parce que demain on connaîtra l'autre demi-finale entre peut-être Coco Gauff, qui fait partie des favoris, et Świątek, la polonaise tenante du titre.
Merci Axel May, on vous retrouve à 23h pour un point sur le match. Et de la Porte d'Auteuil, on va à la Plaine Saint-Denis où les Bleus reçoivent en ce moment la Bulgarie. Dernier match amical avant le début vendredi de l'Euro de football. Une rencontre avec un peu de public, 5000 spectateurs dans le Stade de France. C'est la mi-temps, Cyril de la Morinerie. Avantage aux Bleus, 1-0.
Oui. Avantage effectivement grâce à Antoine Griezmann qui a marqué d'un superbe retourné son 37e but en bleu. C'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais l'événement de cette soirée, c'est la sortie sur blessure de Karim Benzema, je vous le disais dans les titres. Il y a à la 37e minute, hein, il a pris un coup au genou par un Bulgare. Il est mal retombé, il est sorti du terrain. On lui a bandé le haut de la cuisse et le genou. Et puis, il est rentré. Et quelques instants plus tard, il a fait signe au banc de touche au staff technique qu'il ne pouvait pas continuer. Il a donc été remplacé par qui ? Par Olivier Giroud, son concurrent en attaque, qui n'a pas tardé à s'illustrer d'une frappe. Mais il n'a pas marqué, hein, Olivier Giroud. Mais il est bien présent sur ce terrain. Remplacement, le premier de la partie, c'est Lucadine qui remplace Lucas Hernandez. Voilà, l'équipe de France qui mène donc 1-0 avec un bon Mbappé, avec un bon Pogba et donc un buteur Griezmann, mais sans Benzema. On prendra bien évidemment de ces nouvelles. 1-0 pour l'équipe de France.
Merci Cyril de la Morinerie. On vous retrouve en fin de tranche dans un quart d'heure pour un point sur le match. Et il nous reste à présent à voir le temps de demain.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et ce sera un temps plus calme demain, Anissa Dadi.
Oui, ça y est, enfin Sophie, sur la façade est, le temps se calme demain matin. Nous aurons un temps sec, ensoleillé, en tout cas le matin, puisque dans l'après-midi, l'atmosphère redevient à nouveau orageuse sur les reliefs uniquement. Le vent souffle toujours dans le sud, hein, nous avons le Mistral et la Tramontane qui vont souffler en rafale jusqu'à 50 km/h. Sur les côtes de la Manche, nous avons des entrées maritimes qui demain resteront assez tenaces, donc l'ambiance sera assez grise sur les côtes de la Manche, dans le sud-ouest, sur les Pyrénées-Atlantiques et en particulier le Pays Basque. Là, le ciel va se couvrir au fil des heures, mais le temps reste sec. Partout ailleurs, nous avons encore une journée ensoleillée et agréable. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 9 à 21 degrés, 9 degrés pour Rouen, 14 à Paris, 17 à Marseille et Lyon et déjà 21 degrés pour Perpignan. Dans l'après-midi, nous allons encore gagner quelques degrés. 19 à Cherbourg, 22 pour Lorient, 25 degrés à Strasbourg, 27 à Lyon et Nice, 29 degrés pour Marseille, Bordeaux et Paris et 32 la maximale à Nîmes.
Merci Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et puis l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Alexis Gardy, le président de Bellambras. On se retrouve dans un très court instant, à tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
Et il est 22h18 sur Europe 1, on fait à présent un point sur la bourse. Avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Wall Street a eu du mal à trouver une direction ce soir. Les investisseurs restent optimistes sur la reprise économique mondiale, mais s'inquiètent toujours de l'accélération de l'inflation.
Oui, pas de prise de risque à deux jours des chiffres de l'inflation aux États-Unis, des chiffres très attendus. Le Dow Jones perd 0,09%, 34 598 points, plus 0,31% pour le Nasdaq à 13 924 points. Les actions profitent tout de même d'une détente des taux d'intérêt souverains, certaines valeurs de la tech. Apple, par exemple, qui monte de 0,7%, Amazon plus 2%. On a suivi aussi Fastly aujourd'hui. La panne chez cet hébergeur de sites internet a provoqué une grosse frayeur dans de nombreux médias. Le titre perdait 5% avant l'ouverture de Wall Street et finalement il bondit de 10% ce soir alors que cette panne a été réparée assez rapidement. Et puis un mot du Bitcoin qui a un nouveau gros coup de fatigue ce soir et il plonge de 10% à environ 32 000 dollars valeur divisé par 2 depuis son record mi-avril.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, le marché parisien lui poursuit sa progression doucement mais sûrement. Claire.
Oui, une troisième séance de hausse, une toute petite hausse vraiment, plus 0,11% pour le CAC qui termine à 5 551 points. Du côté des valeurs, les espoirs de reprise continuent de profiter au groupe hôtelier Accor qui gagne 3% ou à Unibail Rodamco Westfield qui possède des centres commerciaux et qui grimpe de 6%. Et puis c'est du vert aussi pour le secteur du luxe, Hermès et Kering gagnent plus de 1%.
Et le secteur bancaire ferme la marche sur le CAC 40.
Oui, les banques perdent du terrain dans le sillage de la baisse des taux obligataires. Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas perdent de 1,5% à 2%. Et puis le compartiment automobile recule après une série de 6 séances de progression quand même. Et on suivra Renault, bien sûr, demain, le constructeur qui a été mis en examen en France dans le sillage du Dieselgate de Volkswagen. Peu de mouvement sur les autres marchés en Europe. Londres gagne 0,2%, mais c'est du rouge pour Francfort, moins 0,2%, pour Milan et pour Madrid, moins 0,1%. Amsterdam, en revanche, gagne 0,1%, plus 0,1% aussi pour le CAC qui termine ce soir à 5 551 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. On vous retrouve demain soir pour un nouveau point sur la bourse sur Europe 1. Et il est bientôt 22h21 et c'est l'heure de l'invité écho avec vous Emmanuel Duteil.
Bonsoir Alexis Gardy.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Bellambras. Bellambras, ce sont bien évidemment les clubs de vacances. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, eh bien justement, c'est pour parler de vacances. Où on en est des réservations?
Alors, on est en plein dedans, puisque les vacances de cet été après une longue période, on va dire, d'incertitude, la demande se confirme et s'exprime. On est depuis maintenant une dizaine de jours revenu à nos niveaux de commercialisation de 2019, donc je ne compare même pas à l'année dernière, hein, mais à l'année 2019, avec une très forte demande qui s'exprime tout au long de l'été.
Alors, vous êtes revenu au même niveau que 2019, c'est-à-dire que en ce moment-là où on se parle, les gens vous appellent pour réserver, donc on est au même niveau que 2019, ou vous êtes au même taux de remplissage à la même date qu'en 2019, hein?
On a rattrapé le retard qu'on avait accumulé en début d'année avec l'incertitude Covid. Et donc maintenant, on est au même niveau en 2019, quand on revient 2 ans en arrière par rapport à notre montée en charge sur l'été qui arrive.
C'est très rassurant parce que 2019 était un été record.
Était un bel été. Donc c'est très rassurant. Il y a eu, je ne vous cache pas, sur le mois de mai, un phénomène de rattrapage sans précédent. On flirte avec les plus gros mois de réservation historique du groupe. Donc nous, pour nous, après un hiver blanc et quelques semaines d'incertitude, c'est très rassurant. Et comme je vous le disais, ça s'exprime sur les 2 mois d'été avec une petite préférence pour juillet encore. Ça montre bien la patience, je pense, de nos clients à aller sur la côte atlantique landaise, à aller en Corse, à aller sur nos sites du sud-est. Et on voit que le mois de juillet marche très très fort.
Vous avez cité là quelques destinations. Ce sont les principales destinations, celles qui sont le plus recherchées chez Bellambra?
Aujourd'hui, oui, il y a une très forte demande. Hein. Je pourrais citer le site d'Anglette, par exemple, qui est un site en front de mer, accès direct à la plage juste derrière Biarritz. On a nos sites en Corse avec le site du golfe de Belgodère, Lozzari, qui connaît une très très belle croissance. Hein. Je pense qu'on va presque être complet sur certaines semaines au mois de juillet. La semaine, par exemple, du 17 juillet était la meilleure vente de la semaine dernière sur Belgodère, mais également sur les sites assez emblématiques de la presqu'île de Gien. Hein. Donc ce sont des sites avec des pinèdes sur plusieurs dizaines d'hectares, accès direct à l'eau. On connaît des taux de croissance et taux de remplissage qui sont très attractifs et très rassurants.
Il reste des places encore ou tout est complet là quasiment pour l'été au moment où l'on se parle, Alexis Gardy?
Alors, il reste encore des places. Hein. Comme je disais, on est au niveau de 2019, donc il reste encore un bout de chemin à faire pour faire notre été. En tout cas, il se présente sous les meilleurs auspices. On voit même d'ailleurs, ça avait été une de grosses questions de l'an dernier, une demande qui commence à s'exprimer aussi sur nos sites de montagne. Hein. Donc les sites de montagne, c'est vrai que l'offre à la montagne en été, c'est une offre parfois un peu décalée, mais finalement, entre l'été dernier et l'hiver un peu particulier que nous avons vécu, il y a une demande et nous, on a une offre finalement entre l'offre de restauration, d'activité, de sport qu'on peut proposer chez Bellambra.
On peut avoir une petite idée de la progression?
Alors, la montagne sur la semaine dernière, en fait, on est à 128% de croissance par rapport à l'an dernier. Donc, c'est un rattrapage aussi sur les sites de montagne.
Alors, un rattrapage sur les sites de montagne, mais je crois qu'il y a aussi une particularité cette année. Et là, ça va vraiment à l'inverse de ce qui se passait ces dernières années, même quand tout allait bien pour le tourisme. Les gens réservent, mais réservent pour 2 semaines. C'est ça chez vous en ce moment? C'est là-dessus où il y a la plus forte progression?
Oui, en fait, on a une offre de 14 jours, hein, donc sur 2 semaines. Et là, par rapport, si je compare hein, depuis début juin par rapport à N-2, on est à 160% de croissance sur des séjours de 2 semaines. Donc là, on a vraiment, et quand on échange avec nos clients lors de la réservation, des clients qui ont besoin de déconnexion, qui ont besoin de liberté. Donc c'est l'offre de nos clubs enfants et aussi notre offre de restauration matin, midi et soir qui vient apporter un réel service et qui répond à une demande de... Voilà, on prend du temps, on en profite et on est là pour 2 semaines en vacances, totalement en vacances.
Alors pour préparer cette interview, je suis allé me balader sur le site internet de Bellambra, j'ai pas vu de promotion. On est d'accord que tout ça se passe en plus à prix plein?
Alors, la politique promotionnelle, elle s'ajuste en fonction de remplissage. Hein, donc,
mais pour le moment, il n'y a pas besoin, semble-t-il.
Voilà, alors on est encore sur certains sites avec des promotions sur certaines semaines et sur certaines opportunités ou catégories de logement. C'est quelque chose, bien sûr, qui évolue au jour le jour. L'idée, hein, c'est d'avoir sur les plus beaux stocks ou sur les plus beaux logements dans les plus beaux sites, le juste prix qui est quand même au cœur de l'offre Bellambra.
C'est une petite clientèle chez vous, le public étranger. Je crois que c'est 10% environ de votre clientèle malgré tout. Est-ce que vous les voyez venir là avec les assouplissements de passes sanitaires hein, puisque par exemple, on va pouvoir venir en France si l'on est double vacciné sans faire des tests?
Alors, on sent quand même toujours une inquiétude hein, parce qu'on peut venir. La question, c'est de repartir et dans quelles conditions. Il y a la grosse question qui se pose autour du vaccin. Nous, on a une clientèle, on va dire, internationale de proximité, que sont nos clients belges qui viennent et qui commencent aussi à se poser des questions face à ces assouplissements. Donc on voit qu'il y a une demande, mais on sent quand même encore une certaine réserve à franchir les frontières dans un sens comme dans l'autre.
Donc pour le moment, le mouvement n'est pas encore massif là-dessus. Justement, comment vous allez assurer une sorte de distanciation encore cet été? On sait que les jauges sont levées à compter du 30 juin. Comment vous vous préparez pour cet été qui va quand même être encore un petit peu bizarre?
Alors ça reste un été sous le signe du Covid, hein. Donc on a des protocoles sanitaires qui sont décidés au niveau de la profession et qui sont appliqués chez Bellambra comme chez tous les autres acteurs. On les avait éprouvés, on va dire, sans préparation l'an dernier. On les a adaptés et on les redécline cette année en étant rodés. Bien sûr, ça a encore quelques incidents sur, on va dire, le parcours client, sur les accès ou sur la capacité de fréquenter le restaurant. Donc on aménage les horaires, on aménage l'accueil, on a toujours les mesures et les gestes sanitaires et gestes barrières qui sont en place et l'organisation des flux. Donc on est très 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 attentif à ça. On espère tous que ce sera l'an prochain un mauvais souvenir.
Eh bien, on espère, en effet. Merci beaucoup à vous, Alexis Gardy. Je rappelle que vous êtes le président des clubs de vacances Bellambra. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve jeudi soir sur Europe 1, hein, puisque demain soir, grosse soirée tennis, puisque demain soir, bonne nouvelle, hein, le couvre-feu est prolongé jusqu'à 23h. Et donc, on pourra vivre en direct de Roland-Garros avec des spectateurs les matchs de soirée. Je vous rappelle qu'Europe 1 est radio officielle, radio partenaire de Roland-Garros.
Merci Emmanuel Duteil. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Et puis on vous retrouve demain soir pour l'invité écho. Et avant cela, de 13h à 14h pour La France bouge avec Elisabeth Assayag. À la une de vos quotidiens, demain, la troisième étape du déconfinement en France. Pandémie, le début de l'enfin titre, Libération, couvre-feu repoussé à 23h et ouverture des salles de restaurants. Jauge assouplie dans les lieux publics ce 9 juin a un goût de liberté, titre le quotidien. La Croix s'intéresse au retour au bureau parce que ce déconfinement marque également la fin du télétravail. C'est la fin du télétravail à 100% dans les entreprises. Écrit le journal Le Figaro. Après le télétravail, l'heure du retour au bureau également, alors que l'épidémie poursuit sa décrue, la France entre ce mercredi dans la deuxième phase du déconfinement. Le télétravail également à la une des Échos. Comment les Français s'adaptent à l'heure du retour au bureau? Les entreprises tentent de s'adapter à la nouvelle donne qui mêle travail en présentiel et à distance. Le Figaro. Économie, lui, choisit de s'intéresser au nucléaire et renouvelable, le défi électrique français. Avant de retrouver la libre antenne, on retourne au Stade de France où les Bleus affrontent en ce moment la Bulgarie en match amical. Cyril Delamorinerie, toujours avantage aux Bleus.
Oui, avantage 1-0 pour l'équipe de France. On joue depuis 60 minutes. Le but a été inscrit par Antoine Griezmann qui a marqué lors de chacun des trois derniers matchs de l'équipe de France. C'était à la 28e minute d'un superbe retourné. Ensuite, eh bien le fait de match, c'est la sortie de Karim Benzema en raison d'un coup au genou à la cuisse. Alors, Didier Deschamps a voulu être rassurant à la mi-temps chez nos confrères d'M6. Il a confirmé que ce n'était qu'une béquille. Donc, tout va bien, si je puis dire, pour Karim Benzema.
C'est rassurant.
C'est plutôt rassurant et on devrait le retrouver mardi prochain pour le premier match des Bleus à Munich face aux Allemands. Il a été remplacé par Olivier Giroud et une seconde mi-temps où pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Hein, finalement, l'équipe de France était un peu plus intéressante lors du premier acte. Le score donc est toujours en faveur de l'équipe de France. 1-0 face à la Bulgarie, 61 minutes de jeu.
Merci Cyril Delamorinerie en direct du Stade de France. Il est 22h30 à présent et c'est l'heure de la libre antenne avec vous, Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Sophie, comment allez-vous?
Ça va très bien et vous?
Eh bien écoutez, très bien. Quand je m'assois dans ce fauteuil, tout va bien. On est ensemble jusqu'à 1h du matin et puis vous Sophie, on se retrouve à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.